concerne les miracles. Ah, on aime le spectaculaire. Premièrement, parce que ça relève de quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais surtout parce que c'est ce qui nous frappe le plus à l'instant T. Et de nombreuses personnes se sont converties, peut-être, à la vue d'un miracle opéré par Dieu, comme une guérison ou un changement radical de comportement. Aujourd'hui encore, le miraculeux est très recherché dans certaines églises. On veut voir du sensationnel, de l'incroyable, et ce, chaque dimanche, afin de ressourcer notre foi, un peu comme s'il fallait charger notre téléphone qui affiche moins de 20% de batterie à la fin de la semaine. Batterie spirituelle, vous l'aurez compris. J'ai eu, il y a quelques temps, une personne qui m'a appelé en me disant « Voilà, j'aimerais venir vous visiter parce que je suis en train de chercher une église. » Ah, très bien. Et puis, en discutant un peu plus, je me suis rendu compte que cette personne ne cherchait pas simplement une église. Elle cherchait un type d'église où il y avait régulièrement des miracles. Et cela m'a rappelé que certaines personnes ont presque besoin de ça pour nourrir leur foi ou nourrir leur spirituel, refaire le plein de sensationnel. Mais ce n'est pas toujours, voire pas souvent le cas. Ce matin, nous allons donc parler d'un miracle qui se trouve dans la Bible, un miracle qu'a accompli Jésus-Christ et qui nous est rapporté dans les évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Le texte qui va nous intéresser relate un épisode qui est très connu, peut-être l'un des miracles les plus célèbres de notre Seigneur, celui où Jésus calme une tempête. Notre texte se trouve dans Matthieu 8 et nous le lirons petit à petit. À partir de ce texte, je vous propose trois attitudes que nous pouvons retrouver dans les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie, on en vit tous. Et on les vit à des degrés divers, avec des attitudes diverses. La première attitude qui va nous intéresser au cœur de la tempête, c'est la peur. La peur. La deuxième, c'est quand la tempête dure et devient pénible avec des assauts réguliers dans le temps, ce qui intervient, c'est la fatigue. Et la troisième attitude qui peut intervenir, et je le souhaite, qui intervient dans vos épreuves, c'est le calme conséquence de la foi, la confiance. Tout d'abord, et afin de bien... Hop, ah, il veut pas. Ah si. Je reste là. Tout d'abord, et afin de bien comprendre dans quel cadre nous trouvons ce texte, je vous invite à regarder une vue d'ensemble de l'évangile de Matthieu. L'auteur a structuré son travail rédactionnel par rapport à 5 discours de Jésus. Chacun de ces 5 discours est introduit par une section narrative et notre texte d'aujourd'hui se situe dans la seconde section que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Si cette information technique peut sembler anecdotique, de prime abord, en fait, elle donne un éclairage important sur l'objectif des miracles que Jésus accomplit. Car oui, ces miracles n'ont pas le but le spectacle, comme s'il s'agissait de distraire la galerie. Non, ils servent à montrer l'autorité de Jésus et donc son identité. Qui il est ? Il est le Fils de Dieu qui proclame la venue du royaume en parole, mais aussi en acte. Et donc les miracles rendent témoignage de ce qu'il est. Dans les chapitres 8 et 9, Jésus rencontre de l'enthousiasme de la part du public, mais aussi de la perplexité, et également les premières oppositions qui vont le suivre, vous le savez, jusqu'à la fin. Avant le récit qui nous intéresse aujourd'hui, il guérit un lépreux, puis le serviteur paralysé d'un officier romain, puis la belle-mère de Pierre qui est alitée avec une forte fièvre, ou encore beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Jésus n'a pas chômé. Tout cela forcément suscite de l'intérêt. Eh bien oui, les gens ont fini par en entendre parler. Ce n'est pas la meilleure, il paraît qu'il y a un type, Jésus de Nazareth, il fait des choses incroyables, il guérit, il fait des trucs. Écoute, il n'est pas très long aujourd'hui, je te propose qu'on aille voir ça. de nos yeux. On va voir si ce qu'on nous dit, c'est vrai ou si c'est de la magie. Ils veulent voir celui qui accomplit de tels prodiges. Jésus se retrouve ainsi entouré d'une foule nombreuse. Et c'est alors qu'il donne l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Et j'en viens à notre première attitude qui nous intéresse dans la tempête. La plus légitime, la plus humaine peut-être, la peur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, et je vais lire les versets 23 à 25. Matthieu 8, 23 à 25. Donc c'est Jésus dont il est question. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Et on va d'abord s'arrêter là. Une des premières remarques qui peut nous venir à l'esprit est une question. Comment une telle tempête peut-elle avoir lieu sur un simple lac? Alors en fait, le lac dont il est question ici est le lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade ou de Génézareth. C'est un lac qui est plutôt grand, il fait 166 km², mais il a une particularité bien précise. C'est d'être situé à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc il est très bas et il est entouré de montagnes. Et donc le degré d'altitude crée des différences de température. Cette disposition géographique particulière favorise de violentes tempêtes à cause des différences de température qui en résultent. Et d'ailleurs, le texte biblique détaille que les vagues passaient par-dessus le bateau. Donc on n'est pas simplement dans une petite houle, un petit chahutage. Non, on est vraiment dans une grosse tempête là. Quelque chose de surprenant, qui fait d'ailleurs peur à certains disciples. Et je vous le rappelle que certains disciples étaient pêcheurs de métier. Ils avaient l'habitude d'être sur un bateau. Ils savaient comment procéder. Et bien là, ils sont terrorisés par la peur. Preuve que la tempête est loin d'être petite. La peur ressentie par les disciples est tout à fait compréhensible. Il y a un risque important de faire naufrage et donc de mourir. Dans notre vie, nous traversons tous des moments de tempête. On ne navigue pas toujours sur un long fleuve tranquille. Il y a des moments difficiles, de la souffrance, de la colère, de la précarité, des déceptions, etc. Le chrétien n'est pas épargné. Le monde est aussi facteur de turbulence pour nous. Les soi-disant évolutions de notre société, par exemple, ne cessent de heurter nos principes et nos valeurs. Sur les réseaux sociaux, par exemple, nombreuses sont les publications sur tout type de questions, avec des commentaires plus terribles les uns que les autres. Voilà dans quoi nous évoluons. Mais il y a aussi les tempêtes spirituelles qui ont un impact direct sur notre foi. Elles peuvent produire en nous le doute. Mais ces dernières, nous le verrons, se révèlent parfois aussi bien bénéfiques pour nous faire grandir dans notre relation avec Christ. C'est au plus fort de la tempête que notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est également un bon révélateur, car on le sait avec l'expérience. Le Seigneur nous met à l'épreuve, non pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir, pour nous apprendre. Il y a une image dans la Bible, celle du creuset de l'or. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est un creuset. C'est comme une sorte de petite cuve dans laquelle on met l'or et on le fait chauffer afin d'en enlever les impuretés. C'est une image qui est utilisée dans Job 23:10, mais aussi dans la première épître de Pierre pour parler de l'épreuve. Et je trouve que c'est une très très belle image. Car de la même manière que notre foi est chauffée dans le creuset par le Seigneur, c'est aussi le moment où le Seigneur il va enlever toutes les impuretés. Ça, tu y crois, mais tu n'en as pas besoin pour ta foi. Il faut l'enlever, il faut la rendre pure. Et ce n'est pas un moment qui est facile, mais qui est nécessaire. peut-être serait-on tenté de remettre en cause cette méthode pédagogique de Dieu. Mais soyons objectifs et reconnaissons avec humilité que c'est au cœur de la difficulté que l'on apprend réellement. Si l'épreuve, elle durait que quelques instants et qu'elle partait aussi vite qu'elle était arrivée, est-ce que réellement nous aurions appris quelque chose ? Peut-être, mais pas sur la durée. Une leçon apprise dans la tempête nous marquera. Elle s'inscrira en nous. Elle se gravera avec force au plus profond de nous-mêmes parce qu'elle nous aura coûté. Ainsi, on s'en souviendra mieux et elle ne sera pas effacée de notre mémoire. Ça, c'est important. Un peu comme une cicatrice. On a tous des cicatrices sur notre corps et on est souvent capable de se rappeler à quel moment on les a eues et pourquoi on les a eues. Ah ça, j'avais 8 ans, c'était un accident de vélo. On ne s'en rappelle pas forcément, mais on nous l'a dit, alors on s'en souvient. Si elle n'est pas la marque, peut-être que ça serait tombé dans l'oubli. On ne s'en souviendrait plus. On a besoin de ça, des épreuves parfois qui durent et qui sont difficiles, parce qu'il y a un trésor à apprendre, un trésor de la foi, et que c'est que comme ça qu'on va réellement l'assimiler et le garder ensuite pour toute notre vie. Face à la tempête, il nous faut tenir bon et surtout nous tourner vers Dieu par le médiateur parfait, Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. C'est ce que disent les disciples à Jésus. Il est intéressant de décortiquer cet appel à l'aide. Premièrement, il l'appelle déjà Seigneur. Ah, ça, c'est important. C'est un titre qui est couramment employé pour appeler les détenteurs de l'autorité ou du pouvoir. Elle prendra plus tard dans la bouche des premiers chrétiens une dimension encore plus grande, car Seigneur désigne surtout Dieu dans son action historique. Donc l'appeler Seigneur, c'est plus simplement l'appeler Rabbi, le maître qui sait des choses, qui est sage. Non, on lui donne un titre qui est désormais supérieur. Et il lui demande quelque chose, de sauver des perdus. Il s'adresse au sauveur du monde par excellence, celui qui non seulement sauve de la mort physique, mais plus encore, celui qui sauve de la mort spirituelle, salaire du péché. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Sans le savoir, cet appel à l'aide est révélateur d'un besoin vital d'un sauveur pour les pécheurs. En fait, c'est une forme de pré-confession de foi. Seigneur et sauveur. Il se manifeste surtout par rapport à la mort physique, mais sa dimension est en fait bien plus grande. On n'en a pas toujours conscience, mais la mort spirituelle est bien plus à craindre que la mort physique, car nous ressusciterons tous. Mais seuls ceux qui sont sauvés par l'œuvre du Christ le seront pour la vie éternelle. Et ça, c'est une information majeure, capitale. J'en viens à la deuxième attitude, la fatigue. La fatigue, elle peut survenir lorsque l'épreuve que nous traversons dure et qu'elle finit par nous user petit à petit. On a tous cette attitude au début. Oui, mais je suis confiant dans le Seigneur, je compte sur lui. Et puis, au bout de quelques semaines, plusieurs mois, je compte sur le Seigneur, mais c'est dur. Puis après, ça devient, est-ce que le Seigneur m'a oublié ? Et puis après, le diable finit par s'immiscer. Ah, t'as vu celui en qui tu crois ? En fait, il n'existe pas. Il n'est pas là. T'as cru en rien. Et c'est là vraiment qu'on est comme ça, qu'on vacille, qu'on se demande si celui en qui on a mis toute notre confiance va finir par intervenir. On s'use spirituellement. Mais dans notre texte, c'est l'attitude de Jésus qui a de quoi interpeller. Il arrive à dormir en plein milieu d'une tempête sur une mer agitée, là où les eaux rentrent dans le bateau, Lui, il dort. Les épisodes précédents montrent que l'agenda du Sauveur était bien rempli. Ces moments de répit étaient rares ou de courte durée. Tout semble indiquer que le Seigneur était exténué par un ministère dense et chargé en émotions. Il semble ainsi logique que Jésus saisisse ce moment de trajet qui s'annonçait calme pour se reposer. Alors nous sommes au mois d'août et plusieurs d'entre nous sont déjà partis prendre leurs vacances annuelles, d'autres sont déjà rentrés ou d'autres vont les prendre un peu plus tard, peut-être courant de septembre. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où l'on court après la réussite et la rentabilité, prendre des congés peut sembler être une perte de temps. On a peut-être tous déjà entendu ces personnes affirmer fièrement qu'elles n'avaient pas pris de vacances depuis longtemps. Oh, pas de vacances pour les vrais gars. Les courageux, ils prennent pas de vacances, ils bossent. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Un peu comme s'ils attendaient de vous une médaille, une reconnaissance pour leur dévouement. Ah, lui, c'est un bosseur, hein, pour leur sacrifice. Mais voici ce que dit l'Ecclésiaste. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. Une main pleine de repos que deux mains pleines de travail. Dans ce texte biblique, l'auteur raconte son expérience de sa quête de la sagesse. Après avoir présenté celui qui travaille avec acharnement, dans un esprit de compétition, et son opposé, celui qui fait preuve de paresse, le sage conclut que la vraie sagesse consiste à être équilibré, trouver le juste milieu quant au travail. Il faut savoir s'arrêter et profiter de la vie, profiter du temps que nous avons et ne pas le gaspiller. Les congés ne sont donc pas à considérer comme une perte de temps, mais bien comme une richesse qu'il faut savoir apprécier. Ce qui veut dire que les congés sont une bonne chose et qu'il faut réellement se reposer. On ne répond pas à ses mails professionnels pendant les vacances. On ne prend pas un dossier avec nous pour prendre de l'avance ou pour rattraper son retard. On coupe vraiment, car nous sommes des êtres humains et non des machines. On en a besoin. D'ailleurs, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Après tout, n'est-ce pas là, dans l'Ancienne Alliance, un commandement du Seigneur, le repos? Dieu lui-même s'est reposé après la création et il a ordonné à son peuple d'en faire autant. C'est le troisième des 10 commandements. Deutéronome 5, 13, 14, « Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. » Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Soyons sages dans la gestion du temps que Dieu nous donne. Mais après cette parenthèse, revenons à notre texte. Le Seigneur exténué met ce temps de traversée nautique à profit pour se reposer. Car oui, Jésus est aussi homme, pleinement homme. Il est comme nous, il fatigue, il a besoin de se reposer. Mais cette sieste ne durera pas faute d'une grosse tempête qui s'est levée. Ses disciples réveillent brusquement avec des cris. Et si le Seigneur était dans le calme du sommeil, les disciples, eux, sont bel et bien dans l'angoisse de la tempête. Je pense que rares sont les personnes qui, arrachées à leur sommeil, sont de bonne humeur tout de suite après leur réveil. Pourtant, Jésus ne semble pas leur reprocher ce réveil brutal. En fait, il va leur reprocher autre chose, leur manque de foi et la peur qui en découle. C'est la troisième attitude, la confiance. La confiance. Lisons la suite. Pourquoi avez-vous si peur ? Leur dit Jésus. Votre foi est bien petite. C'est cinglant comme phrase, hein ? Votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient : Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? La sérénité de Jésus tranche avec les éléments déchaînés de la nature et le risque de mourir des disciples qui engendre une angoisse compréhensible. Mais pourquoi donc le maître est-il si calme ? Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il n'a pas conscience du danger ? Non, Jésus n'est pas fou. Il est juste conscient d'autre chose, de sa puissance et de son autorité. Le problème, c'est que ses disciples, eux, ils ne le sont pas, malgré les nombreux miracles auxquels ils ont déjà pu assister. Néanmoins, si la force des choses a conduit les disciples à douter, leur foi est bien réelle, comme en témoigne cet appel à l'aide adressé au Seigneur que nous avons décortiqué. S'ils ne croyaient pas en lui, alors pourquoi lui demander de les sauver ? Peut-être que c'est l'ultime recours. On ne sait jamais, après tout, il a déjà fait tellement de choses. Peut-être que, après les malades et les démons, la tempête, il peut essayer de faire quelque chose. Le problème, c'est que leur foi n'est pas à la hauteur des multiples signes que le Christ leur a manifestés. Ils ont fini par être envahis par le doute. Leur foi a chancelé malgré la présence du Fils de l'homme à leur côté. Cependant, malgré la petitesse de leur foi, le Seigneur va l'honorer en les sauvant. Il va s'adresser aux éléments comme à un voisin trop bruyant. Il se lève, parle sévèrement au vent et au lac, et un grand calme se fit. Cet épisode contraste avec les épisodes miraculeux précédents. Si Jésus guérit plutôt des malades en s'adressant à la maladie ou à un esprit mauvais, il s'adresse ici aux éléments déchaînés de sa création. Si ça peut étonner, à la lumière de ce que dit l'apôtre Jean dans son prologue, le prologue de son évangile, en fait, ce n'est pas si surprenant que ça. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et l'apôtre Paul d'ajouter, Colossiens 1, versets 15-16, « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. » Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Le Christ est celui par qui la création fut venue à l'existence. Il n'est donc pas étonnant de voir le Fils de Dieu avoir autorité sur ce qu'il a lui-même créé. Tout simplement. Cet acte du Seigneur est une nouvelle fois la preuve indiscutable de sa puissance, certes, mais surtout de son identité. Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? Les disciples commencent à cogiter. Il était temps. Dans les évangiles, le Messie n'a de cesse de montrer par toutes sortes de prodiges qui il est vraiment. Et la réponse à cette question, c'est le Fils de Dieu. Tous ces signes miraculeux rendent témoignage de l'Emmanuel, l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Plusieurs siècles auparavant, voici ce que le psalmiste écrit. Psaume 107. Versets 23-32. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans les bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée des peuples et qu'ils le louent au conseil des autorités. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, ce texte est un parallèle évident avec le texte que nous voulons lire. Et vu que le psalmiste parle ici de Dieu, il est évident que ce Jésus qui est dans le bateau avec eux n'est autre que Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur attendait de ses disciples la foi en lui. Parce que Jésus est le Messie, qu'il est cette parole de Dieu faite chair et qu'il s'était manifesté miraculeusement à eux plusieurs fois déjà. Pourquoi alors s'inquiéter d'une tempête aussi violente soit-elle si Dieu en personne est avec nous à bord du bateau? Aurait-on peur qu'il se sauve lui-même sans sauver ses disciples? C'est bien mal connaître le Christ que de le penser. D'ailleurs, cette idée n'est même pas venue à l'esprit des disciples puisqu'ils l'ont réveillé pour qu'il vienne les secourir. Et c'est bien ce que le Seigneur a fait. Il les a sauvés. En fait, ce que Jésus attend d'eux, c'est qu'ils lui fassent confiance. La foi, c'est ça. Lui faire totalement confiance. Pas un tout petit peu. Lui faire pleinement confiance. Tout le monde ici, je crois, connaît Jean 3,16. Qui dit quoi? Soyez pas timide. Ah! Pour ceux qui ne l'ont pas par cœur, celui-là, il a à apprendre par cœur. Parce qu'à lui seul, il résume l'évangile, la clé, notre salut. Un autre, un peu moins connu, mais un peu quand même, Ésaïe 30,15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette confiance en Dieu apporte à notre cœur la sérénité qui balaye nos angoisses. Alors bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ce à quoi nous devons travailler. Nourrir notre foi par la parole de Dieu, afin que notre confiance en lui grandisse toujours plus pour vivre cette paix, ce calme, même au cœur de la tempête. C'est pas facile, c'est dur. Mais j'aimerais que le message de ce matin soit pour vous un rappel. Tant pour ceux qui vivent la tempête actuellement, qui sont en plein dedans et qui souffrent et pour qui leur confiance est mise à mal, restez fermement accrochés au Seigneur. Mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans la tempête actuellement et pour qui tout va bien. Car la tempête, elle arrive n'importe quand. Et elle nous arrive tous. Alors si, pour l'instant, peut-être, c'est juste un rappel pour vous, j'espère que ce sera un réel souvenir quand vous serez dans la tempête. En conclusion, si nombreux de nos contemporains se rendent dans les églises le dimanche pour voir du sensationnel avec Jésus, il y avait de quoi être servi pendant son ministère terrestre. Mais comme le montre l'Écriture, voir de ses propres yeux des miracles les plus spectaculaires les uns que les autres ne suffit pas pour être sauvé. Non, il faut que ces miracles nous conduisent à reconnaître Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, pour placer notre confiance en lui. Finalement, la préconfession de foi des disciples, c'est là qu'il faut la garder. Seigneur, sauve-nous nous sommes perdus. Un commentateur de Matthieu écrit ceci. Suivre Jésus signifie parfois vivre des passages très mouvementés, dans lesquels le calme ne peut venir que de sa parole, et viendra même à coup sûr de sa parole, sans que l'angoisse soit nécessaire. Si les tempêtes de la vie peuvent être fortes et dures à vivre, le Christ en bon berger nous exhorte à lui faire confiance. Car si nous ne comprenons pas tout, lui, il sait tout. Il sait pourquoi il a permis que nous traversions des turbulences. Il en connaît aussi le résultat. Saisissons ces épreuves comme une chance de lui faire confiance. Souvent, après les baptêmes, je me suis rendu compte qu'il était fréquent que des épreuves arrivent chez le nouveau baptisé. Alors, c'est assez fort parce que les nouveaux baptisés peuvent parfois être un peu tout feu tout femme. Oui, ma confiance en Dieu, il est inébranlable, je suis dedans à fond. Eh bien, je réponds souvent, je le souhaite, mais on va vite le savoir. Parce que quand les épreuves arrivent réellement, c'est là qu'on voit si la foi, elle est sincère et si elle tient bon. C'est là qu'on voit. Donc les tempêtes, elles ne sont pas inutiles, elles sont réelles. Tu as dit devant tous lors de ton baptême que tu me faisais confiance. On va voir si c'est vrai. Et je souhaite que par cette prédication, ça soit un réel souvenir pour vous de rester fermement attaché dans la confiance au Seigneur. Il sait pourquoi il a permis que nous traversions des turbulences et il en connaît le résultat. Saisissons ces épreuves comme une chance de lui faire confiance. Cette confiance, jamais le Seigneur ne la bafoue. Jamais. Le Seigneur honore toujours la foi que nous avons en lui et il sauve. Pas toujours de la manière dont nous on aimerait qu'il sauve, mais il sauve. Soyez-en sûrs. Quand dans les temps difficiles, que dans ces temps-là nous sachions appeler notre Sauveur à l'aide et ne pas compter uniquement sur nos propres forces, que notre Seigneur nous aide à surmonter ces moments et qu'il ne cesse jamais de faire progresser notre confiance en lui. Soyez dans la paix, dans le calme, que seul Jésus-Christ peut apporter dans nos cœurs. Amen.